Législative 2012, le grand débat sur France Bleu Pays Basque avec France 3 et Euskal Herri et Sud-Ouest.
Début donc de cette première partie avec les six invités suivants. Colette Capdevielle du Parti Socialiste, Jean Grenet, député sortant, Parti Radical UMP, Laurence Ardouin-Euskal Herri Abaye, Bernadette Lavigne, Front de Gauche, Marie-Ange Thébault, Europe Écologie Les Verts et Jacques Venac, le Centre pour la France Modem. C'est aussi la règle que nous avons fixée. Jean Grenet, vous serez le premier à prendre la parole. Ensuite, chacun des intervenants aura une minute pour dire sa conception du siège de député. Mais d'abord, vous, Jean Grenet, deux minutes pour défendre votre bilan. Deux fois, 5 ans de présence à l'Assemblée depuis 2002.
Bien, je vous remercie de votre invitation tout d'abord. Et je salue les candidats qui sont à mes côtés et ceux qui nous succéderont tout à l'heure. La politique, c'est pas la guerre, donc c'est un débat. Et il ne faut pas faire d'adversaires des ennemis. En tous les cas, c'est ce que nous n'avons pas l'intention de faire, je pense, ni les uns ni les autres. Sur le plan de ce bilan de mandature, 13e mandature de la 5e République, bien, il y avait un contrat de législature entre, bien sûr, le Parti Radical et l'UMP. Et donc, nous avons voté 264 lois, ce qui est un travail considérable, dans un contexte difficile qui est celui de la crise qui a émergé en 2008 et qui n'est toujours pas terminée. Et donc, j'ai soutenu le gouvernement de François Fillon, qui a pris des décisions et des mesures courageuses, difficiles à assumer, mais que nous avons assumées, moi le premier. Il y a un certain nombre de textes que je n'ai pas votés pour des considérations personnelles, d'éthique, de sensibilité, voilà. Donc, le dernier en date et le plus emblématique, c'est la réforme des collectivités locales, qui me paraissait être un pas en arrière par rapport à la décentralisation et pas un pas en avant. Mais j'ai soutenu autrement, loyalement, le gouvernement, et sincèrement, je ne le regrette sincèrement pas. Pour ce qui est de... Parce que quand on parle aux députés, il y a ce qui se passe à Paris et ce qui se passe sur le plan local. Donc, sur le plan local, j'avais quelques priorités dans ce mandat et j'ai essayé de les assumer. La formation professionnelle d'abord. Et donc, nous avons essayé et réussi à implanter ici une université des métiers avec l'aide de la région, bien entendu. Et cette université des métiers, donc il y a eu une journée portes ouvertes l'autre jour, je crois qu'elle va rendre d'éminents services pour la formation professionnelle qui est un enjeu majeur auprès des jeunes du Pays Basque intérieur, mais également des jeunes du sud des Landes. Et puis également, c'est les compagnons du Tour de France en Anglette, qui sont en train de créer eux aussi, dans un autre registre, un pôle de formation extrêmement important, donc je crois que de ce côté-là, nous sommes à jour et que les objectifs sont tenus. Sur le plan également universitaire, bien entendu, nous développons l'UFR Montory Sciences Technologies à Anglette, et également donc Sciences Sociales et Humaines, à la NIV à Bayonne, en développant encore des filières avec l'aide, il faut le dire, de l'UPPA. Ensuite, je me suis attaché à l'emploi. L'emploi avec toutes les entreprises en difficulté, et j'ai rencontré de multiples fois...
Rapidement sur l'emploi, parce qu'on va y revenir au cours de ce débat.
Oui, eh bien c'est très bien, alors je n'en dis pas plus, simplement j'ai réuni plusieurs fois patrons et salariés, syndicats de ces entreprises pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Également, j'ai participé à la création d'un certain nombre d'entreprises, on en parlera tout à l'heure si j'ai bien compris. Nous avons réussi également, et j'ai réussi en particulier parce que je me suis battu beaucoup pour cela, à garder des services publics sur Bayonne qui allaient disparaître. La caisse d'allocation familiale, n'oublions pas également l'explosion qui nous a valu donc des mois et des mois de travaux avec des financements qui ont été assumés par l'État. L'URSSAF également et la Banque de France, nous les avons conservés à Bayonne et bien entendu... Dans mon bilan, j'en suis fier. Également, nous avons créé, nous l'oublions pas, il y a plus ou moins longtemps, il y a quelques années, mais c'est aujourd'hui incontournable et indispensable, des outils qui sont le PFL, bien entendu, pour le portage du foncier, et Dieu sait que c'est important, et l'Agence d'urbanisme Pays Basque, à laquelle nous sommes tous très attachés.
Alors, c'est les actions les plus importantes de votre bilan. Jean Grenet, vous aurez l'occasion d'en développer d'autres au cours de ce débat. Question suivante à Laurence Ardouin, peut-être avec vous, Thiotier Dargui.
Alors, Laurence Ardouin, c'est vous qui allez nous donner un peu le sens de votre candidature. Pourquoi une députée à Bertsalé à Paris, et qu'allez-vous travailler avec qui?
Alors, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on pense, le mouvement Bertsalé pense qu'il est important que nos revendications soient entendues. C'est un travail qui est de longue haleine, hein, des revendications anciennes qui ont été défendues pendant de nombreuses années, souvent critiquées, voire combattues. Et aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'on est entendu, puisqu'on est même repris. Donc oui, la parole des Bertsalé à Paris est tout à fait crédible.
Même si vous êtes isolé.
Bah, même si on est isolé, après on verra. Je sais que la situation, elle peut évoluer, il peut y avoir des propositions. On n'a pas d'opinion à ce sujet pour le moment.
La question suivante pour Bernadette Lavigne du Front de Gauche. Richard Picotin.
Oui, Bernadette Lavigne, êtes-vous une simple force d'appoint pour le Parti Socialiste ? Serez-vous juste une députée d'appoint ?
Alors, je m'attendais à cette petite question par rapport aux socialistes. Tout d'abord...
Et peut-être pas tout de suite.
Oui, c'est ça. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire... Moi, je n'ai pas envie d'être un appoint. Je ne sais pas ce que ça veut dire un appoint. Je suis tout simplement une femme issue du milieu ouvrier à qui le Front de Gauche a osé, parce que je trouve que c'est quand même remarquable, a osé demander de poser sa candidature pour représenter ce mouvement à l'Assemblée nationale. Voilà, alors une force d'appoint, sûrement... On sera une force d'appoint, pas moi, Bernadette Lavigne, mais le Front de Gauche, pour le premier candidat de gauche qui sera le plus en avant, comme nous avons fait pour les présidentielles.
Et quelle loi ne voterez-vous pas
dans s'il en fallait une seule, laquelle vous ne voteriez absolument pas ?
Laquelle je ne voterais absolument pas ?
Dans ce qui est déjà annoncé.
Laquelle est la plus importante, si on peut vous aider, question subsidiaire ? Peut-être les 1700 euros pour le SMIG ?
Oui. Ah, mais je croyais que vous...
Allez-y, choisissez votre question.
De toute façon, ça ne comptez pas sur moi pour ne pas voter une proposition au SMIC à 1700 euros, parce que c'est une de nos...
Donc celle-là, vous l'avez compris ?
Bien sûr.
Et celle que vous ne votez pas ?
Alors, celle que je vote pas, je sais pas. Mais je préfère vous parler de celle que je vais voter. Aussi, on votera la loi contre les licenciements boursiers. Ça, c'est mes deux tops.
Marie-Ange Thébault, vous êtes candidate Europe Écologie et Les Verts. On parle aussi du sens de votre candidature. Si jamais vous êtes élue, vous serez dans l'opposition au conseil municipal à Boucau et dans la majorité, on suppose, au Parlement. Ça risque pas d'être un peu inconfortable?
Oui, on est considéré dans l'opposition à Boucau, mais il faut savoir que nous sommes une liste d'hiver gauche. Donc effectivement, il n'y a pas eu d'association au moment des municipales. Et là, par rapport aux législatives, ce sera une discussion. Et c'est sûr que je voudrais avoir des garanties par rapport à notre programme, à ce que nous demandons. Donc au soir du premier tour, il y aura très certainement une discussion avec des exigences.
Le soutien des Verts au Parlement ne sera pas inconditionnel ?
Écoutez, je parle en tant que candidate. Voilà, à mon nom.
Jacques Venac, vous êtes candidat à Centre pour la France, Modem, Thiotier d'Argui.
Le Modem va-t-il disparaître, Jacques Venac, après cette élection ?
Eh bien, j'espère que non, puisque je suis...
Ça, on se doutait un peu de votre... Mais c'est ma faute, j'aurais pas dû poser la question, en fait.
Merci. D'accord. Merci de l'avoir posé.
Oui. Votre rôle est-il de fixer des voix centristes pour Jean Grenet ?
Écoutez, c'est le plus facile, c'est ce que l'on dit. On l'a dit de François Bayrou, on l'a dit de tout le monde. Moi, je représente ici un parti indépendant, un parti qui a un programme, un parti dont le programme, d'ailleurs, on peut le dire, a été quand même une des bases de tous les programmes que l'on a entendus pendant les présidentielles. Je pense à la moralisation de la vie publique, au développement donc au surendettement, au développement de la production, puisqu'il y a même un ministre maintenant du développement de la production. Enfin, il s'appelle pas tout à fait comme cela. Donc, je pense que le Centre pour la France a montré qu'il n'était pas là seulement pour porter des serviettes.
Et vous ?
Quant à moi.
Donc vous n'êtes pas un porte-serviette, ça vous l'avez dit souvent.
Je ne suis pas un porte-serviette pour le dire comme ça. Et ensuite, quant à moi, j'ai prouvé quand même depuis longtemps à travers mon parcours professionnel, mon parcours politique et associatif, que j'étais capable quand même de tenir des engagements et je les tiendrai. Donc les engagements que je prendrai, je les tiendrai et nous verrons plus tard ce qui se passera.
On termine ce premier tour de table avec vous, Colette Capdevielle. C'est Richard Picotin, du Journal Sud-Ouest, qui a une question pour vous.
Oui, Colette Capdevielle, quel est votre, évidemment, à grand trait, votre projet de société et quelle est votre vision du train de vie de l'homme ou de la femme politique ?
Du train de vie, vous voulez dire. D'abord, je voulais vous remercier, comme M. Grenet l'a fait, d'avoir organisé ce débat, parce que c'est important que les candidats puissent se retrouver ici pour exposer donc leur projet, puisque je crois qu'on est ici pour cela, pour exposer un projet, et notamment un projet législatif après les élections présidentielles. Alors, vous m'interrogez pour me demander ce que je pense être le train de vie d'un...
Oui, quelle est votre vision du train de vie d'un homme politique ?
On a parlé beaucoup de normalité depuis l'élection de François Hollande. Est-ce que vous sentez que les choses sont normales, effectivement, comme vous le souhaitez ? Est-ce que vous serez une députée normale ? Qu'est-ce que c'est une députée normale ?
L'homme ou la femme politique doit d'abord, à mon sens, être transparent. Il doit bien évidemment prendre des engagements et rendre compte régulièrement de son mandat. Il doit, ou elle doit, puisque aujourd'hui, il y a dans mon parti la moitié... des candidats qui sont des candidates. Donc, il doit bien évidemment, par rapport à cela, eh bien, avoir une vie tout à fait normale, c'est-à-dire eh bien, exercer son mandat et à côté de cela, eh bien, avoir une vie comme on a tout un chacun. Voilà comment je conçois le mandat, c'est-à-dire un mandat unique, un seul mandat.
Quelle est la réforme qui vous tient le plus à cœur ?
Il y en a énormément, il y en a une.
Une qui
concerne en tout cas notre bassin de vie, c'est la réforme de la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation, qui va venir tout de suite à l'Assemblée nationale.
Il est 19h12, vous écoutez le débat sur la 5e circonscription des Pyrénées-Atlantiques sur France Bleu Pays Basque.
Législative 2012, le grand débat France Bleu Pays Basque en partenariat avec France 3, Échoualérie et Sud-Ouest. Vicente Vrignon.
Deuxième thématique à présent, l'emploi. La 5e circonscription englobe le port de Bayonne presque en entier, hein, si on enlève la partie de Tarnos, la zone de fret de Mouguère, des centres commerciaux. Elle a connu des fermetures d'usines emblématiques, les fonderies de Mousserolles, pour en citer une, mais aussi des ouvertures, comme sur le site de l'ancienne usine Sony, avec des entreprises du secteur aéronautique. Elle comprend aussi des espaces agricoles sur les cantons de la Bastide de Clérance et de l'industrie agroalimentaire. Première question, Michel Venac, c'est vous que le sort a désigné. Première question sur ce thème de l'emploi avec Thiotier Dargui de France 3, Euskaleri, Pays Basque.
Michel Venac, pardon, Jacques Venac, évidemment, Venac, il vaut mieux. Oui. Merci, merci Michel Tévrignon de m'avoir induit en erreur, mais je suis tombé dedans.
Personne n'a rectifié quand on a fait la préparation.
Jacques Venac, quelle est la source essentielle d'emploi pour cette circonscription selon vous ?
La source essentielle d'emploi, ce sont les PME. Je crois qu'ici, il y a certes de grosses entreprises, Dassault, etc., mais la source principale quand même de l'emploi, celle qui est capable de faire vivre, ce sont les PME. Et donc, mon action, ça sera vis-à-vis de ces PME, évidemment de les soutenir, de leur amener ce dont elles ont besoin et pour lesquelles les banques sont de plus en plus furtives, c'est-à-dire un capital. Et je rappellerai que beaucoup d'entreprises, celle de Brigantine Aircraft par exemple, a des problèmes de capitaux parce que justement ont disparu les sociétés de capital risque, ou du moins elles sont frileuses, pour le dire de cette façon-là.
Donc, quelles sont les activités sur lesquelles vous comptez, vous espérez vous voir ?
Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'activités qui existent déjà et que si on veut développer l'emploi ici, il faudra aussi s'occuper des activités qui jusqu'à maintenant sont peu productives. Et la première, celle dont on parle sans arrêt, c'est-à-dire du tourisme, de l'avantage du Pays Basque, eh bien il est dommage que le tourisme ne soit pas une activité plus productive qu'elle n'est. Elle produit des services, mais elle ne produit peu de matières industrielles. Je pense par exemple à tout ce qui est au cosmétique, je pense à tout ce qui est l'habillement, etc. Certes, nous avons des réussites comme Quicksilver ou Volcom, mais c'est vrai que l'effort n'a pas été suffisant de ce côté-là.
Alors, Jacques Venac, vous parlez tourisme et industrie. Justement, Colette Capdevielle, le port de Bayonne, c'est un atout pour l'emploi ou un handicap environnemental et touristique ?
Le port de Bayonne, c'est essentiel. Moi, je souhaite que ce port, hein, qui pour l'instant est un port industriel, devienne également un port marchand, hein, destiné au transport, notamment de marchandises. Ce port est vital parce que il touche trois communes les plus importantes, d'ailleurs, de la circonscription, que sont Bayonne, Anglette et Boucault. C'est un port qui est aujourd'hui, donc, qui a été repris par la région, sur lequel, eh bien, il faudra beaucoup travailler, tous les élus ensemble. Il va falloir assurer, bien sûr, sa sécurité, c'est vital pour les habitants.
Et c'est compatible avec le tourisme ?
Bien sûr que c'est compatible. Il y a beaucoup de villes touristiques qui ont des ports. Je pense, par exemple, à Marseille, il y a bien d'autres villes. C'est tout à fait compatible. C'est-à-dire qu'il faut que ce port urbain soit complètement intégré dans la ville et il faut également y développer des activités. Et ça, on peut le faire. C'est tout à fait possible. Il faut être très vigilant.
Sans créer de conflits, parce qu'on a bien vu sur le port de Bayonne que ça créait des conflits et à l'intérieur des mêmes familles politiques.
Il y a eu des conflits parce que les dossiers ont été mal préparés. Quand ils sont bien préparés en amont et qu'il y a une concertation et que tous les acteurs sont mis autour de la table, on y arrive plus facilement. Et c'est un enjeu fondamental de développement pour notre bassin de vie.
Jean Grenet, sur ce thème de l'emploi, c'est Richard Picotin du journal Sud-Ouest qui va vous interroger.
Oui, Jean Grenet, vous venez avec vos collègues de Mouguère et Saint-Pierre-d'Irube de signer le permis de construire à l'IKEA. On annonce quelques 800 emplois donc sur cette zone commerciale et le centre commercial. Est-ce la panacée ?
L'avenir vous le dira. Ceci étant, je préfère avoir 1000 emplois qui se profilent que 1000 qui disparaissent, enfin je pense. Par ailleurs, IKEA, ça n'est pas le premier magasin qui s'implante à Bayonne. On a quelques expériences réussies ailleurs, en France et en Europe, et qui n'ont pas porté de préjudice au commerce de centre-ville. Donc, je porte ce dossier depuis 2006, et aujourd'hui, il est en passe d'aboutir, et pour ma part, je m'en réjouis. 95% de main-d'œuvre locale. Vous dites 800 emplois. Moi, je suis obligé d'écouter ce que me dit IKEA. Il me parle de 1100 emplois. Tant mieux. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un plus pour l'agglomération et que ce sont des emplois qui ne sont pas extrêmement qualifiés au départ, donc qui sont accessibles à beaucoup de personnes. Et je pense que ça sera quand même un ballon d'oxygène pour, bien entendu, l'emploi.
Mais ce que je voulais vous dire... Combien ces emplois vont-ils en détruire dans le commerce du centre-ville?
Je pense aucun, monsieur. Mais on peut toujours regarder le pire. Vous savez, moi, je suis de ceux qui positivent. Je vois toujours la bouteille moitié pleine, pas moitié vide. Je vois ce qui s'est passé ailleurs. Je ne suis pas quand même assez stupide. Je me suis battu pendant 15 ans pour requalifier le centre-ville de Bayonne. Pendant 15 ans pour qu'il y ait une dynamique commerciale dans cette ville. On a d'ailleurs beaucoup d'autres villes qui viennent nous voir pour savoir ce que nous avons fait et comment nous l'avons fait. Donc je ne suis pas celui tout d'un coup, après avoir bataillé pendant 15 ans pour remettre le commerce bayonnais, n'est-ce pas, d'aplomb. Et Dieu sait qu'il a été mis à mal par BAB2 à l'époque, pour faire venir maintenant un concurrent qui va amener 8 millions de visiteurs par an. Donc je pense que si on est capable d'en attirer 5% dans le centre-ville de Bayonne, comme ça se fait ailleurs, eh bien ça sera un plus et pas un moins pour le commerce bayonnais. En tous les cas, ce que je voulais vous dire également, c'est que, puisque j'ai un bilan et que, bien entendu, les autres candidats ne peuvent pas l'avoir, il faut savoir qu'on s'est battu quand même pendant 5 ans pour maintenir l'emploi. C'est bien ancré, mais il faut le maintenir. La SAGEM, 300 emplois qui étaient menacés. Plastitube, également. LFTech, là on n'a pas pu la sauver, c'était une entreprise qui allait sombrer de toute façon. Novatrans aujourd'hui, 22 emplois sur le centre Open Offray. La clinique Socori à Saint-Palais, 150 emplois.
Mais Novatrans n'est pas sauvé.
Novatrans n'est pas sauvé, mais on va créer une structure qui va permettre d'embaucher au moins la moitié de celles et ceux qui seraient licenciés pour faire fonctionner le CEF. Et ça, on y travaille.
On va reparler de Novatrans tout à l'heure. Je vois Laurent Sardouin à côté qui dodeline un peu de la tête. IKEA, c'est pas votre recette pour l'emploi.
Je dodeline ou je réfléchis en même temps que j'entends. C'est pas ma panacée. Ce que je vois, c'est que dire qu'on va créer 800 ou 1100 emplois, le problème, il est pas là. C'est de savoir quel type d'emploi on va créer. Si c'est créer de l'emploi précaire à 25 heures pour des personnes qui n'ont pas les moyens ni de se loger, ni de gagner décemment leur vie, pour moi, c'est pas une solution. C'est pas une solution non plus sur le terrain écologique, parce qu'on sait qu'il va y avoir malgré tout des incidences pour les habitants qui sont autour du projet. Voilà. Donc, oui, on crée des emplois, mais quel type d'emploi? Si c'est pour créer des emplois précaires, peu payés, avec des conditions de travail particulières, parce qu'on sait aussi qu'IKEA n'est pas forcément celui qui respecte le mieux la législation du travail et le droit syndical. Voilà. Moi, je préférerais qu'on en crée peut-être moins, mais qu'on en crée dans de meilleures conditions et à un meilleur salaire.
On ne vous entend pas beaucoup, d'ailleurs, sur vos recettes pour l'emploi dans le programme Aversal. Et vous avez quelques idées?
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous proposez?
Nous, on est clair et net sur le passage aux 32 heures. Puisque effectivement, pour nous, dès lors qu'on partage un peu plus...
Et ça crée l'emploi.
Bien sûr. La critique qui a été faite sur les 35 heures et qui cherche justement à décrédibiliser le projet des 32 heures, c'est de dire que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ça a été fait sans contrepartie. On n'a pas imposé aux employeurs d'embaucher en CDI pour justement compenser la diminution du temps de travail en créant de l'emploi. Si on exonère des charges sociales à l'employeur, mais qu'on oblige aussi dans les mêmes circonstances à embaucher, je vois pas où est la difficulté. Pierre Laroutourou, qui était au Parti Socialiste il y a quelques années qu'il l'a quitté, explique bien que c'est une situation tout à fait économiquement tenable, et aujourd'hui il y a au moins 3 entreprises qui sont connues de tous, Mamie Nova, Monique Ranou notamment, et Fleury Michon, qui sont aux 32 heures depuis plusieurs années, et qui disent, les DRH le disent, la productivité elle a continué, les charges n'ont pas augmenté, et le stress a baissé.
Oui, mais vous attirez comment des entreprises? Parce qu'en l'occurrence vous avez cité des entreprises qu'on ne connaît pas ici. Là.
Très rapidement, en 10 secondes.
Oui. Mais les 32 heures, ce n'est pas uniquement pour les grosses entreprises, ça peut être appliqué aussi sur les petites entreprises, sur les PME, dans les services publics. Je crois qu'il faut revoir la situation globalement et pas simplement sur un champ d'activité particulier.
Bernadette Lavigne du Front de Gauche, votre formation...
Et on n'a pas reparlé du port de Bayonne, ça c'est votre dada quand même, si je peux me permettre, vous connaissez bien.
Moi je voudrais en parler du port de Bayonne, parce que on n'est pas tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on est pour une réindustrialisation du port de Bayonne.
Pas d'accord avec qui? Avec Colette Capdevielle?
Pas Pas tout à fait d'accord. Parce que
mais
nous,
avec qui
on pense, oui, avec
le PS, Capitiel,
oui, avec le PS. Parce qu'on pense que ce port, il est de type néocolonial. C'est-à-dire, on importe, on exporte et on ne traite pas la matière première. Alors, bon, ben, c'est un des seuls ports français dans cette situation. Et au lieu d'être un outil économique au service de l'emploi, il est géré sur des critères financiers. Par exemple, une grande partie...
Attendez, vous ne me lisez pas votre texte, là. Hein, vous me dites... allez-y,
je suis désolée, mais moi, je n'ai pas 15 ans de mandat politique. Je démarre en politique, donc c'est mes repères. Je suis désolée.
Je ne sais pas pour qui vous dites ça.
Non, je vous le dis. Je veux bien être naturelle et tout ça.
Dites-moi naturellement.
Bon, alors, je vais vous le dire naturellement.
Allez.
Par exemple, par rapport au maïs. Le maïs, il transite par ici et il est envoyé en Espagne dans des usines pour la midonnerie, etc. Alors qu'ils nous revendent après ces produits. À un moment donné, le Conseil économique social de l'Aquitaine a réfléchi sur cette question. Mais on est resté au niveau de la réflexion.
Et comment ça se fait qu'on ne trouve pas d'entrepreneur, justement, pour développer ce genre d'industrie de transformation sur le port de Bayonne?
Est-ce que la volonté est d'en trouver? C'est la question que je pose, moi, aujourd'hui.
Alors, le maïs, c'est une chose, mais il y a aussi le nitrate d'ammonium.
Ah, mais bien sûr, je vous attendais là aussi.
Le train hier, décidément, on est sans surprise.
Oui, donc le premier train, chaque jour qui passe se rapproche de son arrivée. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, ce que j'en pense, c'est vrai qu'il y a une position des élus locaux, une position que je peux tout à fait comprendre, de gestionnaire, qui est là pour protéger la population, il n'y a pas de souci. Parce qu'en plus, je peux partager ses préoccupations, parce que la sécurité, on n'a plus quand même d'unités de pompiers du côté du Boucau. Il faut le savoir quand même. Après, je pense que les gens n'ont pas été quand même très très bien informés sur ce projet du nitrate. Moi, j'ai tendance, au front de gauche, à défendre aussi tout le bassin d'emploi de l'AC. Hein. Moi, je fais confiance aussi, et je l'assume pleinement, aux coupins syndiqués, au boulot des syndicats qui disent que quand même, il n'y a pas risque zéro, mais quand même, ça peut se faire. Mais après, j'entends que la population, et que si les normes de sécurité ne sont pas mises en place, eh ben, il faut encore y réfléchir.
Mais quelles sont suffisantes actuellement pour vous?
Je voulais donner ma position.
Bon, entre les deux, alors.
C'est pas entre les deux. C'est beaucoup plus subtil que ça, vous m'avez bien écouté.
Alors, il faudra du temps. Marie-Ange Thébault, on va terminer avec vous ce tour de table sur l'emploi. Pour sortir un peu du port de Bayonne, peut-être qu'on peut parler de l'emploi dans le secteur de la santé. Il va y avoir de grosses transformations dans les prochaines années. Est-ce que le pôle santé qui va se créer sur Bayonne, ça pourrait être un exemple de mine d'emploi?
C'est à souhaiter, mais je pense qu'il faudrait aussi penser à des emplois pour pouvoir recréer plus à l'extérieur des agglos, des centres des maisons de médicales, des accompagnements de crèches pour les personnes qui partent travailler localement, pour éviter avoir à jongler pour les familles qui travaillent. Et c'est surtout aussi là qu'il y aura de l'emploi. À ce jour, l'hôpital est toujours en travaux et en train de s'agrandir.